Salut les amis.
Salut Charlie.
C'est tendu en ce moment.
Ah ouais, on a reçu plein de courriers d'auditeurs.
Oh là là là.
Ils trouvent qu'on n'a pas assez critiqué Marine Le Pen.
Mais enfin, mais c'est l'essence de notre travail.
Mais les gens pensent quand même pas qu'on soutient Marine Le Pen.
Non, mais c'est vrai, parce que nous, si elle arrive, on va devoir rentrer chez nous.
Ouais, ils trouvent qu'on n'a pas assez dit qu'il fallait voter Macron.
Ah, mais bah c'est parce que ça nous fait mal au cul de le dire.
Bah oui, mais tu vas le faire, toi.
Ah oui, je vais le faire.
Donc pour le dimanche 7 mai, c'est ton projet.
Mais bien sûr, c'est mon
projet. Mais on se la paye, Marine Le Pen.
Mais moins, c'est vrai.
Mais pourquoi?
Parce qu'elle y arrive très bien toute seule.
Ah oui, et puis parce qu'on n'a pas envie d'en parler.
Mais oui, mais si tu croises quelqu'un qui a un bouton sur le nez, bah, c'est rigolo.
Ouais. Ouais,
bon, bah, si tu croises quelqu'un qui a un cancer du pancréas, bah, t'as pas envie de faire de blagues dessus.
Évidemment, c'est vrai.
J'ai rien compris.
Bon, mais alors, nous, on voit la France avec un bouton sur le nez, Emmanuel Macron.
Ouais. Et le cancer du pancréas, c'est...
Bah, c'est, voilà, c'est l'autre.
Ouais. Ah, bah, moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, il faut pas qu'on passe pour des vieux moralisateurs.
Non plus.
Les gens, si tu leur dis quoi voter, ça va les énerver.
Surtout les mélanchonistes.
Ça s'énerve vite, un mélanchoniste.
Ça va, Milouche, c'est pas Gandhi.
C'est ça.
Bon, alors, ce qu'on va faire...
Un plan d'attaque.
C'est même un plan de défense.
Vas-y.
L'émission est plus grande que nos erreurs.
Donc,
à partir de maintenant, on sera clair.
Mais on a toujours été clair.
Encore plus clair. Okay. Et on fait face au front.
Front.
Chacun fera ce qu'il voudra après en conscience.
Ok, très bien, mais c'est quand même mieux de voter Macron.
Ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est pas faux.
Ah ouais, mais ça, on le dira pas.
Non, on dira pas.
Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui crée un front républicain de la blague en s'alliant avec l'actualité. Et voici les trois informations qui vont se liguer jusqu'à 18h. Rien n'est joué pour le second tour. Vu l'ampleur du ni l'un ni l'autre, Marine Le Pen peut sortir vainqueur. Alors on se réveille.
Et on se sent les doigts du cul.
Là c'est clair. Autre différence notable avec 2002, les appels à voter créent une forme de ras-le-bol. Laissez-nous choisir, à tel point qu'il existe un inquiétant appel à ne pas voter, et quand les deux se rencontrent...
Tu menaces ? Je te menace pas, je te préviens. Dégage.
Très clair aussi, la chirurgie esthétique tente de plus en plus de femmes et d'hommes poussés par une forme de concurrence, non pas pour rester jeune, mais pour atténuer la fatigue, disent-ils.
Je suis vieille, je suis moche, je suis passée de l'autre côté, du côté des mémères ménopausées.
Moi, je suis accompagnée de celui qui ne dit pas non, mais merde. Alex Vissorek.
Bonjour, Charlie de Lenecker. Et aujourd'hui, autour de la table, attention, que des gens importants du cinéma français et Guillaume Meurice. À 17h20, l'homme qui pousse la création à ne pas toujours comprendre lui-même ce qu'il propose, le poète auto-incompris, c'est vous, Hippolyte Girardot, bonjour.
Bonjour.
Tu n'es pas reconnu, j'ai l'impression.
Oui, d'accord.
De quoi on parle?
On va parler de cinéma.
Oh, c'est beau.
Oh, écoute.
Alors je prends. C'est la première fois alors qu'on vous avait engagé pour ça. 17h30. Lui, c'est un autre problème. Il ne comprend pas toujours les gens qui l'interrogent. Et je le soupçonne même de les choisir en fonction. Le plus rien compris, c'est Guillaume Meurice. Bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Mais moi, je suis allé voir ce matin des électeurs sonnés par les résultats du premier tour.
Moi, je m'attendais à madame la vache Marguerite comme première dame. Bon, on aurait peut-être une très jolie dame.
Complètement sonné. Très
enfin,
compliqué.
17h40, celui qui parvient en plus de ne pas comprendre le monde à l'expliquer, le méta incompris, c'est vous, Thomas Bidguin.
Eh oui, c'est moi. Voilà.
De quoi on parle?
Et on va parler d'annonces.
Ah oui, voilà, c'est sobre aujourd'hui, dis donc.
Oui, et je me tourne vers celle qui a tout annulé pour nous. Votre court-métrage intitulé « Les vacances » reçoit le prix du jury à Cannes un an avant que vous sortiez diplômé de la FEMIS, l'école de cinéma. En 2011, vous co-scénarisez « Police », le film de Mai Wen dans lequel vous jouez. Mai Wen vous fait également tourner dans « Mon roi » aux côtés de Vincent Cassel. Vous avez réalisé « Elle s'en va » et « La tête haute », deux films où vous faites tourner Catherine Deneuve. Le DVD de votre dernier long-métrage vient de sortir « La fille de Brest ». Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes
Emmanuel.
Ah, ça fout la pression.
La moitié.
C'est Emmanuel.
Sur France Inter, Charline Van Mooker, Alex Vizorek. Si tu écoutes. J'ai tout.
Vous allez le dire où est la chaise en osier.
Vous savez, c'est peut-être Emmanuel Macron.
Oui.
Dites voir projet.
Ah, je le dis pour vous, c'est Emmanuel Berco qui est avec nous, mais vous l'aviez reconnu avec la présentation, évidemment. On ne vous présente plus Emmanuel Berco. La fille de Brest est sortie en DVD. Je rappelle, pour ceux qui seraient passés à côté, mais vraiment, il fallait vivre dans une bulle pendant quelques mois. Adaptation du livre d'Irène Frachon, notre lanceuse d'alerte, qu'on aime tant qu'on embrasse. Le médecin qui a lancé l'alerte contre le Mediator. Donc, adaptation du livre Mediator 150 mg combien de morts, paru aux éditions Dialogue. Emmanuel Berco, le DVD, La fille de Brest, il y a, quand on a le DVD, la volonté de le garder, de le mettre dans sa vidéothèque, parfois après de l'oublier, puis de le ressortir pour le revoir. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de votre film, des mois ou des années après qu'il soit sorti finalement ?
Ce que j'aimerais qu'on retienne du film, c'est le combat d'Irène Frachon. Irène Frachon, je sais qu'elle est heureuse que ce film existe parce que le cinéma peut être une manière de pérenniser les histoires et que cette histoire, c'est pas un succès international, ce film, hein, mais le film, il existe, le DVD maintenant existe. Et dans ce DVD, il y aura pour toujours l'histoire de cette femme dont beaucoup de gens n'avaient pas lu le livre ou qui n'ont pas forcément suivi toute l'affaire. Et cette femme, elle a fait, en dehors de l'affaire du médiateur elle-même, c'est une héroïne, c'est quelqu'un qui s'est battu et qui se bat encore tous les jours pour faire triompher la justice pour les victimes de ce médicament. Et voilà, c'est un combat qui est exemplaire et qui peut nous faire du bien. Donc voilà, c'est simplement qu'il y a une trace de cette affaire et surtout un portrait de cette femme exceptionnelle dans ce film. Je dirais que c'est son intérêt.
Interprété par Babette Knudsen avec Benoît Magimel. Et donc c'est vrai, il y a le fait que de conserver le DVD, c'est aussi se rappeler que cette histoire, elle est toujours là et qu'il faut toujours rester en alerte. Quand vous avez décidé de faire ce DVD, vous avez pensé à faire un bonus ou pas de bonus, etc.
Alors, je vais vous expliquer un truc. Ouais. Déjà, c'est pas moi qui ai décidé de faire le DVD. Moi, je décide pas grand-chose. Hein. En dehors du film.
C'est automatique, vous voulez dire.
Vous vouliez pas, vous.
Oui. Écoutez, vous voulez que je vous dise, honnêtement, je m'en fous un peu.
C'est vrai ?
Moi, j'achète toujours des DVD parce que je suis cinéphile un peu fétichiste, etc. Mais après, on sait très bien que le DVD, aujourd'hui, voilà, ne marche plus très bien. Donc, les gens utilisent d'autres moyens pour regarder les films.
Oh, il y a des gens comme vous alors, et nous qui aimons garder
oui,
les films
alors,
qu'on a aimés.
Voilà,
et...
y en a quelques-uns, heureusement, qui font le faible chiffre, à mon avis, des ventes du DVD.
Ouais, mais là, ça, c'était avant de passer dans notre émission.
Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.
Mais c'est pour ça que je suis venue, parce qu'on croyait.
Ah bah, nous, on croyait que c'était pour nous.
C'est pour l'argent.
Ah ouais. Ouais, j'avais beaucoup de choses à annuler pour venir, donc il fallait vraiment qu'il y ait un enjeu important.
Non. Le crédit de la véranda, il est remboursé.
Après, je vais vous dire, moi, j'achète des DVD aussi pour les bonus, parce que j'adore, en particulier, voir les making-of, etc. Moi, il y a très peu...
Et là, il n'y en a pas. Alors, attention,
oui,
se passe.
C'est vrai, je ne peux pas faire la pub sur les bonus, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Pour une bonne raison, c'est que j'ai jamais assez d'argent, mais comme nous tous, hein, pour faire mes films, et qu'à un moment, on me dit, bon, alors le réalisateur du making-of, alors on le prend combien de jours, etc. Et je dis, ça coûte combien ? Donc on me dit, ça coûte tant. Et je dis, ben non, c'est pas possible, puisqu'on n'a pas assez d'argent, donc je vais plutôt prendre une journée de Steadicam en plus, et on fait pas de making-of.
Et voilà.
Donc ça fait quand même 3-4 films que ça se passe comme ça, donc les bonus de mes DVD...
Le bonus, c'est du luxe, c'est ça ?
Voilà, le bonus, c'est du luxe, absolument.
Pas une boîte de médiateur, rien du tout avec.
C'est vrai.
Mais voyez, voilà, au marketing, ils n'ont pas assuré.
Il y a un autre intérêt au DVD, c'est que si vous revoyez le film, bah, c'est comme un livre qu'on relit ou un film qu'on revoit. Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas vues. Et quand on connaît l'histoire et qu'on revoit le film, on peut attirer son attention sur d'autres choses.
Non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et je suis sûre que tous les gens qui ont adoré ce film, et Dieu, ils sont nombreux, vont avoir envie d'avoir le DVD chez eux.
Mais il a eu bonne presse, votre film.
Oui,
quand même.
Bien sûr.
Bah ouais,
je suis pas ironique. Non, mais je parlais plutôt des spectateurs qui m'ont fait savoir qu'ils aimaient beaucoup le film, etc. Je ne doute pas qu'ils auront envie d'acquérir le DVD.
Et c'est La fille de Brest, film d'Emmanuel Berco, qui sort donc en DVD. Il est disponible. Et on reste ensemble jusqu'à 18h. On va parler chirurgie, parce que vous en connaissez un rayon. Eh ouais, familiale, les parents, le papa chirurgien. Slashback blazers and ate all your razors while pulling the waders. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back.
tired. She loved him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go of his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
David Bowie sur France Inter. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Berco. Le DVD La Fille de Brest est disponible avec Cisse Babette Mutsen, avec Benoît Magimel, avec Gustave Kervern, entre autres, bien sûr. Pour entourer Emmanuel Berco.
Emmanuel Berco, qu'on appelle la star de la promo hein, dans le milieu. de la table. On a
Hippolyte Giraud. Tué par l'éditeur DVD.
On a Thomas Bidguin. Il y en a Guillaume Meurice. En tout cas, c'est son dernier DVD, donc achetez-le.
Mais non, c'est parce qu'elle est punk, Emmanuel Berco. Elle s'en fout, elle a raison. Allez, c'est comme nous avec l'info, c'est parti.
Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine.
Le journal de presque 17h17.
À moi, à l'assassin !
C'est l'élection présidentielle.
Et on commence par les titres.
C'est le 25 avril, journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental.
Allez Marine, c'est l'occasion de proposer un poste de Premier ministre à papa.
Dans l'Hérault, le vote d'une électrice a été refusé car elle avait été déclarée morte.
Oui, Jean Tibéri s'est déclaré très surpris, persuadé qu'un mort avait le droit de vote encore.
Des brèves ?
Oui, parce que je pense qu'il nous reste plus que cela.
Eh oui. Et on commence par Marine Le Pen, on va en bouffer pendant encore 14 jours. En visite à Rungis ce matin, elle a été huée et visée par des jets de tomates.
Oui, la vie d'artiste.
Elle en a profité pour affubler Emmanuel Macron d'un petit surnom, Bébé Hollande.
Alors c'est censé être désobligeant, mais venant d'un bébé Le Pen, c'est surtout rigolo.
Jean-Marie qui était en grande forme ce matin au micro de Léa Salamé.
Oui, surtout quand elle lui a parlé de la non-consigne de vote de Jean-Luc Mélenchon.
Il est très correct, ça me paraît très digne de la part d'un candidat qui a fait une percée remarquable.
Quand c'est Jean-Marie Le Pen qui vous dit que vous avez beaucoup de dignité, c'est peut-être le moment de se remettre en question.
Ça s'appelle le baiser de la mort.
Oui, exactement.
On reste à gauche.
Oui, on n'a pas eu le temps de vous passer l'analyse politique la plus brillante venant de la gauche au soir du scrutin. C'était celle de Gérard Filoche qui parle des deux candidats de gauche.
J'ai aucun regret, sauf qu'ils ne soient pas mis d'accord, monsieur. Je trouve que c'est les deux dirigeants de la gauche les plus bêtes du monde. Si vous étiez entendu ce soir, il y en aurait un qui serait Premier ministre et l'autre qui serait président. Et la gauche fêterait partout et enfin on pourrait faire quelque chose. Et parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord, ils sont rien.
On vient regretter qu'il n'ait pas gagné la primaire à gauche.
Invité de BFM TV, Bruno Le Maire a dit qu'il pourrait évidemment travailler avec Macron après les législatives.
Oui, on sent bien le mec qui a lu le programme de Macron et qui ne veut même pas refuser la première offre d'emploi.
Jean Lassalle, quant à lui, il était ce matin sur France Bleu.
Oui, et il va mieux, hein, parce qu'il a déclaré.
Quand on prend 1,2%, je prends la mesure de la tolle, comme on dit, que j'ai prise.
Voilà, là, on l'avait connu moins réaliste, hein, j'avoue.
Il est revenu sur Terre. Oui. Hein, voilà. Revenons à présent sur quelques événements moins réjouissants qui se sont déroulés dans les urnes.
Mais oui, Hérault, son vote est refusé car elle est déclarée morte.
Terrible méprise.
Ben oui, elle voulait mettre un nom dans l'urne et on lui a expliqué que c'est elle qui était déjà dans l'urne. Et...
À l'inverse, un électeur des Pyrénées-Orientales est mort dans l'isoloir.
Oui, bah lui c'est sûr, bah oui. Il n'est plus en marche. C'est une
Bordeaux, un sans-papier condamné à 15 jours de prison ferme pour avoir volé des saucisses et une brosse à dents.
Alors il a essayé de se justifier en disant que ce sont des saucisses offertes par un ami, mais ça n'a pas fonctionné. Marché,
International, oui. L'Arabie Saoudite élue à la Commission des droits de la femme de l'ONU.
Voilà, ce qui relance complètement les chances de la Tchétchénie à la Commission anti-homophobie et d'Erdogan pour présider Journalistes sans frontières.
Et en Irak, trois membres de Daesh Daesh ont été tués par des sangliers.
Oui, il y a un dicton qui dit « Quand tu ne peux pas manger de porc, méfie-toi de son cousin ».
En tout cas, on attend avec impatience les aventures d'Astérix et Obélix dans l'État islamique.
Mais oui, bien sûr.
Culture. Un musée de l'échec va s'ouvrir en Suède et il rassemblera tous les produits qui ont fait un bide à leur sortie.
Voilà une belle perspective pour la campagne de Benoît Hamon.
Et des brèves.
Oui, ivre au volant. Il passe sur le siège du passager, faisant croire que le conducteur s'est enfui.
Ah, bonne technique.
Oui, c'est la technique François Hollande, quand il va devoir justifier son bilan.
La dernière.
Alors, Normandie, interpellé pour avoir mis du maître Gims trop fort, il s'exhibe devant les gendarmes. Et notez qu'il n'était même pas ivre, ces douleurs.
Emmanuel Berco nous accompagne jusqu'à 18h et on va aborder avec vous ce premier sujet. Car rien n'est joué, les amis. Les électeurs très déçus. Certains ne veulent plus voter. Le vote nul et le vote blanc creusent leur sillon. Et si Macron continue à écrire ses discours comme une truffe, le FN peut s'installer à l'Élysée. Alors hop hop hop, on se remotive là.
Plus jamais de 20%. Plus jamais. Nous serons toujours contre.
C'est ça, le mouvement de la jeunesse. Le mouvement de la jeunesse.
Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents.
Sans pitié, hein, la jeunesse emmerde le Front National. Et comme ben... ça, on va encore recevoir du courrier.
Mais les vieux aussi. Hein.
Hein, les vieux aussi. Les vieux aussi, hein. Tout le monde, bien sûr. Les berruriers noirs, porcheries, évidemment. Voilà. Comment va la citoyenne Emmanuelle Berco en ce moment, dans cet entre-deux tours? Comment elle vit? Comment elle discute? Comment elle se dispute avec sa famille, ses amis?
Non, on se dispute pas tellement parce qu'on est tous un peu... perplexe, un peu vaseux, un peu dégoûté.
Un peu lendemain gueule de bois.
Ouais, un peu lendemain gueule de bois. Donc,
bien qu'on l'ait vu venir quand même, c'est ça qui est...
Plus que la dernière fois.
Ouais. Non, non, on l'a vu venir, mais autant il y a eu encore des discussions avant le vote du premier tour assez, assez passionnantes, etc. Autant là, tout le monde est, j'ai l'impression, un peu paralysé et triste. Mm-hmm.
Vous vous souvenez de l'émotion que vous aviez eue quand Jean-Marie Le Pen s'était affiché sur votre téléviseur en 2000...
Mais c'est même pas que je me souvienne de l'émotion, je me souviens physiquement, viscéralement de ce que j'ai ressenti, je sais où j'étais, je sais quel temps il faisait, je me souviens très précisément de ce moment, sauf que là on s'est pris un truc dans la gueule mais qu'on n'avait pas du tout vu venir, c'est la différence avec ce qui s'est passé cette fois-ci, et c'est vrai que c'est aussi ce qui participe à un peu ma petite dépression, c'est que... J'ai pas ressenti ce coup-là parce que, en fait, bon, ben. Oui, mais.
Non, mais on est beaucoup et donc on a le droit de se le reprocher. Est-ce que vous le reprochez
Bien sûr, je me le reproche.
C'est-à-dire
si vous voulez.
Je suis aussi à fleur de peau que la dernière fois.
J'étais moins à fleur de peau parce que, comme quand on se prépare à ce qu'on considère comme des drames, et ben forcément, on est un peu blindé. Mais c'est surtout que ce qui est venu parasiter tout ça, c'est le soulagement que j'ai eu. De ne pas voir un autre candidat que je redoutais tout autant que Marine Le Pen en face d'elle. Donc tout ça, c'est un peu mélangé et c'est vrai qu'il y a une espèce d'apathie un peu dépressive. Voilà.
Alors c'est le début, il y a quand même deux semaines d'entre deux tours, donc on est aussi dans l'espérance qu'il y a des choses qui se mettent... Je sais pas, qu'il y ait des choses qui se mettent en place, qu'Emmanuel Macron soit un peu moins truffe, quoi, qu'il soit un peu plus convaincant.
Ah, ouais, alors là, il a raté sa soirée.
Mais son discours
la soirée complète. Non, mais j'entendais.
Son discours, Marine Le Pen est au second tour et nous parle de Brigitte.
C'est compliqué. C'est compliqué.
Non, il faut le... Je sais pas, on n'a pas envie de le secouer un peu comme un prunier en disant « Vas-y mon gars, il faut... »
Je pense qu'il l'aura entendu. J'espère.
C'est à espérer. Vous comprenez, vous, ceux qui sont dans le nini?
Bien sûr. Ouais. Je comprends ceux qui sont dans le nini, bien qu'il y ait eu cet élan en 2002 vers Jacques Chirac, mais qui a quand même un capital sympathie énorme et qui a dû faciliter les choses. Là, comme on a déjà vécu ça, on est un peu différent aujourd'hui face à une situation pourtant similaire. Et moi, je connais beaucoup de gens, enfin autour de moi, la plupart des gens n'ont effectivement envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre, et ont beaucoup de mal cette fois-ci à se résoudre à un vote utile, comme on dit, ou un vote par peur.
Voilà. Mais donc le FN se profile, parce que quand on a autour de soi des gens, hier on avait aussi un invité qui nous disait Nini, c'est là qu'on se rend compte à quel point, si personne n'y va, elle peut passer.
Vous dites que vous comprenez le Nini, mais ça ne veut pas dire que vous n'irez pas voter dans 10 jours.
Il n'y a pas de cas que je n'aille pas voter. Non, bien sûr.
Il est 17h28 sur France Inter, on ne vous lâchera pas la main.
C'est la grosse patate.
C'est la grosse ambiance. Et pour remonter tout ça, tiens, quelqu'un qui pourrait être plume de Macron, ça lui ferait un peu de bien. Macron, Hippolyte, avec votre verbe, votre enthousiasme.
Moi, je me suis dit justement, Emmanuel est là, Emmanuel Berco est là avec son film sur le médicament, c'est bien. On va un peu s'éloigner de la politique.
Relancer la promo du DVD.
On va parler...
Le film sur le Médoc, il est dispo.
Eh ben ouais, quand même, tu vois. On va parler de cinéma. Et je me suis dit, tiens, on va parler de cinéma de science-fiction. Parce que, bon, c'est un peu loin de votre genre de cinéma, quoique Deneuve, dans votre précédent film, Elle s'en va, qui quitte sa vie bourgeoise pour chercher un paquet de clopes, peut sembler de la science-fiction. Je parle évidemment pas de la détermination de Deneuve en quête de tabac, ça non, évidemment, mais de l'écriture d'un scénario dont le prétexte est de trouver des clopes alors que le cinéma reste soumis à la loi Evin. Formidable. Cela dit, une provocation en partie compensée par une excellente scène de roulage de cigarettes d'un monsieur âgé qui met autant de tabac sur ses genoux que sur le papier face à une Catherine qui s'impatiente. Et on la comprend, parce que si on devait demander une clope à chaque fois qu'on a envie de fumer à ce charmant vieillard, on arrêterait dans la journée. Bref, elle s'en va. Très beau titre, très beau film. De toute façon, vous êtes très belle, Emmanuel. Et ce film n'a rien à voir avec Life, origine inconnue, film américain de science-fiction sorti mercredi dernier et dont le titre pourrait être « Elle revient ». Elle revient ? Mais elle revient qui ? Elle revient quoi ? La bête. La bête revient. La bête qui nous a tous fait flipper dans les années 80. La bête qui nous filait des cauchemars. La bête gluante que certaines générations ne connaissent pas. Je veux parler d'Alien, l'extraterrestre qui transperçait le ventre de John Hurt pour se cacher dans le vaisseau spatial et observer Sigourney Weaver en petite culotte. Dans Life, origine inconnue, la bête n'est pas un tank effrayant avec 1000 mâchoires en acier, mais une jolie petite algue blanche en forme d'étoile. Une apparence charmante, inoffensive, dédiabolisée en quelque sorte. Jusqu'à ce qu'on la réveille et qu'elle découpe le bras du scientifique qui tenait la spatule dans la boîte transparente du confinement. C'est affreux. Moi, je me suis évanoui à ce moment-là, mais si vous croyez que je spoil, c'est que vous n'avez pas vu le film. Ceci n'est qu'un appetizer. Impossible de deviner comment ça va finir. Bon, se faire peur avec des trucs loin de chez nous, c'est un classique, parce qu'on se dit que le temps qu'ils aillent sur Mars, tous ces gens-là, Trump se sera mis en couple avec Kim Jong-un. Oui, mais non. Non. Le 8 mars 2016, un enfant est mort de l'anthrax en Sibérie orientale. Hein ? Oui. Pas de bombardement chimique, pas d'enveloppe poudrée, non, juste une petite bactérie qui est remontée à la surface à l'occasion de la fonte du permafrost, qui a infecté l'herbe mangée par les rennes et contaminé le steak de renne que cet enfant sibérien avait mangé. Bon, alors juste pour vous rassurer tout de suite, comme ça je mets la pression directe, il y en a plein la terre, hein, de virus, de bactéries, d'agents pathogènes divers et variés qui n'attendent qu'un petit coup de réchauffement climatique pour exprimer leur potentiel créatif en revenant chez nous. Voilà, je voulais pas faire une chronique politique, évidemment, mais c'est marrant quand même que ce film sorte en pleine élection présidentielle, non ? Je me demande, voilà, si la fonte du permafrost politique, social, culturel, idéologique ne s'est pas accélérée ces derniers temps, au point qu'elle a libéré des bacilles, microbes et autres micro-organismes qu'on croyait inertes, et qu'elle a finalement laissé possible le retour de la bête immonde. Juste, je me demande.
Hippolyte Girardot, c'est une allégorie ?
Ou une métaphore, je ne sais plus.
Métaphore, on ne sait plus. Merci Hippolyte Girardot. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Berco et le DVD La Fille de Brest.
Oui, formidable DVD.
Pas besoin de bonus, on s'en fout. Allez hop, hop, hop. Hop, dans la vidéothèque. Pour ne jamais oublier l'alerte.
C'est vrai que des fois, on est déçus des bonus des DVD et là, vous ne serez pas déçus.
Effectivement. Tout à fait.
Aucun risque.
C'est une technique.
Et gardez en mémoire l'alerte d'Irène Frachon, bien sûr. Allez, vous êtes sur France Inter. Oh les cœurs. Jusqu'à 18h.
T'épouses la street, la tête dans le win. T'as fait du self-control, ton way of living. Pour rassurer toujours le petit nanoeil qui cligne. T'es curling, t'es
curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit bibi. Toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais t'iradis et dandy, t'es curling. T'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi, tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Tu doubles fil au Ritz. Descends, grand seigneur, balance nonchalamment les clés au chasseur. Et lui, tapote la joue avec un petit ton farceur. T'es curling, t'es curling. Ça pince-fesse, ça gratine, mais toi tu coulisses. La vie est une faillite que tu croques à pleine tif. Petit pas de danse quand tu traverses la piste. T'es curling, t'es curling.
Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elle glisse nue sur la banquise et balaye la matière grise comme au curling.
Tu crouses sur la corniche pour admirer la mer. Le soleil t'aveugle et c'est pas pour te déplaire. Belle journée pour s'éclipser et faire du curling, du curling.
Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balise. Toi tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling.
Erwan, curling sur France Inter, programmation musicale de Djoubaka. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Berco. Où est-ce qu'on va vous voir ou qu'est-ce qu'on va vous voir faire bientôt, Emmanuel Berco? Vous en êtes où là?
Là, je change un peu d'air et je répète une pièce de théâtre qui va être créée à la Comédie de Valence et qui viendra à Paris l'année prochaine. Une pièce de Christine Angot, mise en scène par Richard Brunel, qui s'appelle Dîner en ville.
Ah.
Mm-hmm, vous allez adorer, on parle politique, vous verrez.
Ah, oh, super.
C'est l'histoire où elle dîne avec François Fillon.
Ah, vous verrez. Qui vient vous faire un bracelet. Enfin bon, toute cette histoire. Allez. À côté de vous, Emmanuel Berco, il y a Guillaume Meurice qui est chaud bouillant, heureusement,
oui.
Il en faut.
Eh bien, écoutez, J+2 après l'annonce de Marine Le Pen au second tour de l'élection, et la France vit dans la peur d'une chanson de Francis Lalanne contre le Front National. Mais à part ça, tout le monde s'en fout. Tout est calme en France, tout le monde semble à l'aise avec l'idée de Christine Boutin, ministre du droit des femmes, de Franck de la Personne, ministre de la culture. Ça va le monde du Cinoche? Ça se passe bien?
Voilà, voilà le bonus, on l'aurait dans le cul. Hein.
Encore moins de bonus qu'avant, et tout le monde, voilà, tout le monde s'en fout. Hein. Bruno Gollnisch, président de SOS Racisme, pourquoi pas, avec pour but de protéger donc le racisme. Bref, SOS, comme le nom l'indique. Bref, ça sent la pudeur de gazelle à plein nez, voire la chasteté d'antilope. Donc je suis allé ce matin voir le peuple de France, hein, dans les rues de Paris, pour comprendre cette absence de réaction. Et je suis d'abord tombé sur cette dame.
J'ai appris l'arabe, mon petit ami était un prince arabe. Hein, donc je connais le monde du Moyen-Orient, un prince Al-Thani. Bon. D'ailleurs, c'est pour ça que mon petit chien s'appelle Tana.
Bon, alors là, je suis désolé. Hein, on a affaire à la crème de l'antiracisme. Même son chien a un nom arabe, il sort avec des arabes. Alors, prince arabe, d'accord. Mais bon, on va pas chipoter. Hein, voilà. Il y a quand même arabe dans la locution. Ça va pas être difficile de la convaincre d'organiser une grande manif anti-FN. On continue.
Marine Le Pen est une femme correcte. C'est une très bonne mère de famille. Alors, je vais me permettre de vous dire quelque chose sur son clip.
Dites-moi.
J'ai toujours dit, voyez-vous, j'ai fait du marketing. Donc, je pense que ça pourrait
être... Dans son clip de campagne?
Oui, on devait se considérer comme une ménagère au niveau du marketing, au niveau d'une entreprise et de notre République.
Oui, donc elle fait du marketing aussi finalement.
Eh ben, c'est un très bon marketing, mais je vais vous dire une chose, je pense que c'est une femme qui est très valable. Quant à Marion, c'est une femme extraordinaire.
Ok, ok, alors attendez, parce que ouais, ça ne va pas le faire du tout pour la manif. Sinon, elle va venir avec un t-shirt Louis Ailly Alio, ça va être gênant pour tout le monde. Pourtant, je vous rappelle qu'il y avait 500 000 personnes pour manifester dans Paris en 2002. Alors, allons voir ce monsieur pour savoir ce qu'il en pense.
Ce sont des phénomènes spontanés de gens qui sont complètement excités, qui ont peut-être bu, qui sont peut-être drogués. En fait, je ne sais pas quelles sont leurs leurs idées au départ et les raisons pour lesquelles ils les font. Enfin, c'est trop facile.
Ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes alcoolisées et droguées dans les rues il y a 15 ans
Oui, peut-être, oui.
Ah oui, vous pensez?
Oui.
Ah oui, oui, alors là, ça va nous coûter cher en alcool et en chichon, cette histoire. Alors, pour l'alcool, on peut peut-être appeler Jean Lassalle à la rescousse. Hippolyte peut peut-être nous dépanner une ou deux barrettes. Mais ça va pas suffire, ça va pas suffire. La question, quand même, c'est est-ce qu'on s'est habitué à l'extrême droite? Est-ce qu'un parti multi-condamné pour injures et provocations à la haine raciale est devenu d'un coup comme les autres?
Les injures raciales, il y en a partout, partout il y en a. On en entend partout. C'est pas des vrais injures racistes, en plus, c'est des jeux de mots de Le Pen.
Oui, hein, du rafour crématoire, des petits jeux de mots, on rigole bien. Hein, Jean-Marie Le Pen, qui est toujours président d'honneur du FN, et dans président d'honneur, il y a honneur. Hein, ça prouve bien que c'est une personne tout à fait honorable. De toute façon, ils sont comment, les Français, selon ce même monsieur?
Les Français sont pas racistes, mais il y a un fond de racisme ici ou là. Oui. Dans les classes populaires, essentiellement, parce que je dirais dans l'électorat CSP quelque chose, non, là, il y a plus
on est riche, moins on est raciste.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, vous pensez?
C'est vrai. Oui.
Ouais, ouais, et quand je vous dis que ça va nous coûter chaud cette manif, alors c'est vrai que les inégalités sociales creusent le racisme, ça c'est vrai, on va pas se mentir. Hein. Et on remercie d'ailleurs le Parti Socialiste, appelé comme ça parce que le dernier socialiste est parti, hein, d'où le nom. Alors, dans ce tableau un tout petit peu sombre, hein, on va pas se le cacher, il me fallait quand même une parole de sage, une parole de quelqu'un qui a connu l'extrême droite au pouvoir et sa brutalité, un ancien résistant, et j'en ai trouvé un.
Monsieur, j'ai 93 ans, j'ai commencé ma vie à 12 ans. J'ai aidé une vieille dame de 86 ans à passer à travers les troupes allemandes.
Voilà, ouf, là, c'est bon. On tient notre meneur de la marche contre le nationalisme et ses dangers. On allait enfin pouvoir s'organiser. Alors, qu'est-ce qu'il pense de Marine Le Pen?
Je crois qu'elle est assez gentille.
Elle est gentille, vous voyez?
Je crois qu'elle est gentille.
Pourquoi vous dites ça?
Mais non, mais elle, je trouve qu'elle a un air assez gentil.
Même si il y a quand même quelques pétainistes avec elle.
Ah oui, bah oui.
Mais alors, est-ce qu'un ancien résistant peut arriver à trouver Marine Le Pen gentille aujourd'hui?
Elle n'a pas des actes méchants, elle n'a pas méchante, je crois pas.
Quand elle dit par exemple qu'elle veut fermer les frontières sur les gens qui fuient la guerre.
Je sais pas.
Ah bah si, elle le dit.
Bon allez, je m'en vais, je vais faire mes petites coucourses.
Voilà. Hein, va faire tes petites coucourses. Hein, et on compte sur Alzheimer hein, pour qu'il oublie l'adresse de son bureau de vote. Alors, à noter quand même que lundi prochain sont organisées des manifs contre le Front National, mais que personne pour l'instant n'est d'accord sur le mot d'ordre. Hein, donc c'est le bordel. Je sens que le 8 mai, si la France continue à faire la fine bouche, elle risque de se réveiller en puant de la gueule.
Guillaume Meurice. Merci.
À votre service.
Oh là là, je suis pas sûre d'être consternée.
On est dans quel arrondissement là?
17e.
Très bien. J'ai fait deux marches, 12e et 17e.
Ah, très bien. Ouais. Très bien. Oh là là. Eh ben voilà. Il est 17h41 néanmoins, la vie continue. Nous sommes avec Emmanuel Berco, qui est devenu justement ce Front Républicain. Oui, ça fait deux sujets sur la FN, on est un petit peu traumatisé là. Le no pasaran à la française, where is it, hein? Et pour les plus jeunes qui n'ont pas connu 2002, peut-être vous demandez-vous, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar de Front Républicain, mais c'est un peu ça, quoi.
Si on se fie au projet de Cocteau, je suis l'ennemi. Parce que je pense. Parce que j'aime lire. Parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non fumeur. J'ai vu l'avenir façon Cocteau. C'est une vierge de 47 ans dans un pyjama beige qui boit des milkshakes banane carotte en chantant une pub débile. Vous vous pliez aux volontés de Cocteau là-haut. Ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Votre autre choix, vous joindre à nous. Et peut-être mourir de faim.
Extrait de Demolition Man. Oh. Oui.
C'est Jean Cocteau dans Demolition Man.
Hey, yes. Jake Gyllenhaal. Hein, les Amerloques. Les Français disent de plus en plus en avoir marre des appels à voter. Ça devient très touchy cette période parce que quand on appelle à voter contre le Front National, à faire barrage, etc., il y a plein de voix qui s'élèvent. C'est la différence aussi avec 2002, en disant mais lâchez-nous la grappe, on fait ce qu'on veut. Alors, un candidat perdant qui annonce qu'il va reporter sa voix, etc., vous trouvez ça paternaliste, indicatif, curieux, juste normal?
Ça, c'est une question pour moi?
Oui, tout à fait.
Non, ouais. Toute la table, vous pouvez passer la patate chaude à qui vous voulez. Hein. On est une équipe.
Vous qui aviez voté Fillon, est-ce que vous attendiez avec impatience sa consigne de vote?
Non, je sais pas. C'est quelque chose que moi, j'ai, à titre personnel, remarqué par rapport à 2002. C'est qu'en 2002, on pouvait dire allez, on vote contre, on y va, on fait un Front Républicain, etc.
Il y a une différence entre appeler au vote et dire, à titre personnel, je voterai pour.
Oui.
Peut-être c'est ça qui a été reproché à Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire je donne aucune consigne. Ça, à la limite, ok. Mais moi, personnellement, je ne m'engage pas non plus. Et c'est ce qui est reproché à pas mal de gens en ce moment. Ouais, ouais, ouais.
Mmh. Bah oui, dans responsable politique, il y a un responsable.
Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème avec appeler au vote qui est une personne pour nous dire vote un tel ou un tel. Par contre, s'engager personnellement, oui, je trouve ça plutôt courageux, moi.
Ouais.
Moi, j'avais suivi Lynn Renault, moi. Comment...
Mais pourquoi pas?
Oui, quand vous entendez Emmanuel Bercot dire voilà, il faut voter ceci, etc., vous dites, ça vous passe un peu au-dessus du ciel, vous dites, de toute façon, je fais ce que je veux.
Ça me passe complètement, mais j'attends pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et à vrai dire, je pense pas que les consignes de vote aient beaucoup d'incidence, à part peut-être quand c'est Christine Boutin qui...
je me suis posé la question ce matin. Ouais. Qui s'est dit ce matin? Ah oui. Ok, Christine Boutin.
Enfin,
c'est
tout le monde s'en fout.
Et Guélo.
Ouais, pareil. Ouais. Ah ouais.
Après, un homme politique, voilà, il doit être responsable. Donc, je pense que c'est de leur rôle de s'engager à titre personnel. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut.
Est-ce qu'il n'y a pas cette envie de l'électeur français qui a vu faire les Anglais, qui a vu faire les Américains, de faire l'inverse de ce que le mainstream disait, de dire, bah, nous aussi, laissez-nous au moins choisir. Ça vous...
Merci.
Alors, c'était pas une question. Ressens comme ça parce que la vraie, pour moi, c'est la différence avec il y a 15 ans.
Mais... C'est ce que j'allais dire aussi avec Alex Vizorek. Désolé, je rappelle qu'on est belge et ça n'existe pas
comme
en Belgique.
Il y a des coalitions. Fatalement, ils décident entre eux.
De façon, pour nous, c'est un ovni de dire bon, voilà, j'ai perdu, j'appelle à voter machin. Alex et moi, vraiment, et je pense tous les Belges, on vous regarde comme ça en se disant mais qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Donc à notre décharge, si je puis faire mon avocat.
Comment ça marche l'asile politique chez vous?
Non, mais ce que je veux dire, c'est quand un responsable politique dit pour qui il va voter, il pense aussi à lui, à sa carrière personnelle. Quand même.
Oui, c'est ça,
pas seulement idéologique, quoi. Il faut bien voir que quand même les mecs ils se placent en disant tu vois, j'ai appelé à voter pour toi. On est quand même dans ce truc-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens rejettent énormément les consignes de vote. Parce qu'elles ne sont pas tout à fait ni sincères, ni honnêtes.
Bon. Alors on appelle ça aussi le fait de se liguer le Front Républicain. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre nom que Front? Parce que... Ah non, mais ça paraît du siècle dernier. Front National, Front Républicain, Front. Je sais pas, on n'a qu'à dire...
L'Union. L'Union Républicaine,
oui, c'est pas... Oui, c'est joli, voilà. Une belle Union Nationale. Une belle Union Nationale sans...
Le poste républicain.
Allez, fou,
Emmanuel, alors. Pas de bonus à ce sujet 2.
Parce qu'elle est cohérente, c'est comme dans le DVD.
Pas sympa.
La fille,
je vous ai dit que j'étais nulle en bonus, ça va poursuivre éternellement cette histoire.
Ah, mais il n'y a pas besoin de bonus, La fille de Brest, ça suffit très très bien. Juste le film, comme ça, brut dans le DVD, déjà. Thomas Bideguin, vous êtes un homme de bonus, vous?
Oui, oh, bah, ça, terriblement.
C'est la même blague qu'une année.
Oui, oh, bah, c'est... On m'appelle, c'était mon surnom au collège.
Ah.
Oui, enfin bon. Voilà, c'est à moi donc. Les Français se
avalez ce que vous avez en bouche, c'est mieux.
Merci beaucoup. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc les Français se sont exprimés et là, c'est mon tour. Je viens une fois de plus vous parler de storytelling. De tous ces petits récits qu'on enferme à la va-vite et qui font que la grande prison des histoires a un taux d'occupation de 240%. Voilà, mais le thème du jour, ce sont... les annonces. C'est très utilisé, les annonces, dans le storytelling, et on n'aime rien tant que se réserver des effets d'annonce. Pourtant, c'est souvent contre-productif dans les histoires, les annonces. Par exemple, sur la ligne A du RER, en ce moment, ils font des annonces pour dire que tous les trains circulent bien et que le trafic est normal. Voilà, ça leur paraît une tellement bonne nouvelle qu'ils ont envie de partager ça avec nous. Voilà, c'est un peu comme quand le médecin dit « Ah, il a dit les examens » et il dit « Enfin voilà, non, c'est pas une blénorragie », il dit. Et donc voilà, les annonces, pourtant, quand je fais pipi, il y a des flammes qui sortent. Bon voilà, les annonces, ça suscite... l'inquiétude, ça suscite la peur. Dans le métro, parfois, il y a une voix de femme robot qui annonce... Des pickpockets sont susceptibles d'agir dans votre station.
Je suis avec vous, Thomas.
Merci.
Les autres ont lâché, mais... Ouais.
Non, mais c'est Blénorragie.
On a dit ça. On a oui, dit je sais. C'était même pas écrit.
Non, non, on sait que vous êtes parfois en freestyle. Hein.
Le mot Blénorragie vous vient comme ça.
Oui, qui est comme votre un souvenir.
Comme un bonus.
Oui, comme un plat de choux. Alors... Donc, dans le métro, parfois, une voix de femme robot annonce « Des pickpockets sont susceptibles d'agir dans votre station ». Et là, les gens ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'eux aussi, un jour, ils seront remplacés par des robots. Et même les robots ont peur. Il faut se mettre à leur place, des robots, parce qu'avant, ils servaient à désarmer des centrales nucléaires ou à explorer Mars, et maintenant, ils font les annonces sur la ligne 8. Donc, ils ont peur. Les annonces, ça crée l'inquiétude. Parce qu'on sait qu'au fond de nous, on le sait bien, elles sont systématiquement déjouées, les annonces. Dans la vie et dans les histoires, c'est pareil. Dans un film, quand un personnage dit « Oh, cette gentille petite créature a l'air complètement inoffensive », eh ben, on sait intuitivement qu'il va se faire atrocement déchiqueté. C'est d'ailleurs à peu de choses près l'histoire de mon premier mariage. Les exemples ne manquent pas. On sait bien qu'il ne faut pas les mouiller, qu'il ne faut pas les exposer à la lumière, on sait bien qu'il ne faut pas leur donner à manger après minuit, et pourtant c'est comme ça, les mélenchonistes vont revenir envahir la place de la République. Parce que les annonces, les mises en garde ou les avertissements sont toujours contrecarrés. Surtout, n'oublie pas d'aller chercher Kevin à 16h au judo. Quand on entend ça dans un film, on sait que ça va mal se passer, qu'il sera jamais là à 16h. Ou, oh tiens, voilà cette petite clé, mais surtout n'ouvre pas la porte du fond. Voilà, toutes ces annonces-là, on sait que ça va mal se passer. Ou, ne monte pas dans la voiture avec un inconnu. Enfin bon, sauf si c'est l'appli qui dit de le faire. Il y a des bonbons à l'arrière en plus. Voilà, on le voit dans les récits, les annonces ne servent pas à dire ce qui va se passer. Elles ont pour fonction d'attraper le spectateur et d'orienter son regard, un peu comme la baguette du magicien. Et avec les élections présidentielles, on peut dire qu'il a été orienté le regard, parce qu'il y en a eu des effets d'annonce, comme on n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen. Et là, cut, paf, le type sort du bureau du juge avec l'air d'avoir avalé ses sourcils. Ou alors, on n'imagine pas Jeanne d'Arc mise en examen. Et là, cut, la nana refuse de se rendre à la convocation de la police. Ou même le fameux « Nous sommes la gauche » de Benoît Hamon. Et là, cut... En fait, non. Mais les élections ne sont pas finies et on n'en a pas terminé avec les effets d'annonce. Et celui qui domine un peu tous les storytelling du moment, c'est le fameux « Attends, c'est mathématiquement impossible que Marine Le Pen soit élue présidente ». Et là, cut, elle descend triomphante l'avenue des Champs-Philippeaux. Et là, cut, on se retrouve sur les quais avec des francs à essayer de négocier du saucisson au marché noir. Et là, cut, le Veldiv devient un jour férié. Et voilà, il faut se méfier des annonces. D'abord parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Pas mon premier mariage en tout cas. Mais parce que, surtout, on se rappellera que le seul genre de récit où tout se déroule suivant l'annonce, c'est la tragédie. Bon. Dans la tragédie, la prophétie énoncée par l'oracle ou par la pitié, qui vient en mangeant, ou par, ou par une mauvaise fée, ou par Christine Boutin, ou par Henri Guénaud, ben cette prophétie, elle va implacablement se réaliser. Dans la tragédie, le héros, que ce soit Oedipe, Orestes, Thésée, tous, le héros ne pourra pas contrevenir à son destin. Son futur est écrit... Parce qu'il n'a pas le droit de vote.
Oh.
Alors les gars,
ouais. Eh ben là, oui. Comme quoi, une chronique qui change le monde.
Il était temps.
Thomas Bideguin.
Avec des brillants jeux de mots, on peut le mettre en plus. Parce qu'elle ne mange pas de pain.
Merci Thomas.
On va le mettre en bonus.
Oui, on n'oublie pas que derrière le cut, il peut y avoir l'avenue Florian Philippot, effectivement.
Ouais.
Merci Thomas. Troisième sujet avec vous, Emmanuel Berco. Ça calme bien tout le monde, ça aussi. Oui. Annie Dupéret, tiens, s'est confiée à propos de la chirurgie esthétique. Ah. Oui, elle y a touché, mais elle ajoute, bah, tout le monde le fait. Ah bon ? Bah, je sais pas tout le monde, non. D'ailleurs, c'est pas forcément la peine, hein, ni pour vous, ni pour certains hommes, d'ailleurs, comme celui-ci, c'est pas la peine de lui faire plaisir, lui.
Allô, Germaine ? Voilà, je prends l'avion avec une femme.
Une femme ? Mais vous êtes fou ?
Oui, je suis fou d'elle.
Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?
Elle a plus que vous. Elle a...
Elle a des grandes mains poilues, des grands pieds, elle est toute frisée,
Quoi ?
Oui, eh bien je l'aime parce qu'elle a pas mal au cœur en bateau, qu'elle n'a jamais de gras sur la figure, ni de dégoûtis sur la tête, ni de baleine dans son soutien-gorge.
Rabbi Jacob de Funès, évidemment, et Suzy Delair. Tiens, c'est une préoccupation dans le milieu des actrices, la chirurgie esthétique, ou c'est un cliché ? Parce que là, Annie Dupéret, elle nous annonce...
plaisanter
hein ? Je sais pas, c'est un milieu que je ne connais pas. C'est un milieu que je ne connais pas, moi, je voudrais savoir.
Mais vous allez au cinéma ?
Oui.
Donc vous avez la réponse.
C'est pas que du beau maquillage, quoi, des belles lumières.
Bah moi, je vous trouve aussi jolie en vrai que d'autres sont des écrans de cinéma.
Mais vous, êtes
c'est
nature,
sous-entendu.
Vous...
Ouais. Oui. Non, mais vous vous dites la vieillir pour une femme, peut-être pour un homme aussi, pour les femmes, c'est vraiment très difficile. Et pour une actrice, vous imaginez que ça l'est beaucoup plus que pour quelqu'un qui n'est pas amené à être sur un écran. Et que la chirurgie esthétique, hélas, c'est une réponse vers laquelle se tournent pas mal d'actrices.
Ouais. Il en va de votre job à un moment, c'est ça l'idée ? C'est-à-dire que les réalisateurs se tournent plus, enfin risquent de se détourner de vous. Je sais pas, Thomas Bidoguin.
De vous, c'est-à-dire de quoi vous parlez ? Parce que les réalisateurs risquent de se détourner des actrices qui sont trop refaites.
Bah oui,
c'est plus ça.
Ah,
oui. Oui.
Bah, les deux existent un peu, mais surtout on risque de se détourner effectivement d'actrices qui ressemblent à qui on peut pas donner de profession, par exemple dans un film.
Non, ou le rôle de Melania Trump.
voilà, par exemple. Quelle est sa profession ? Je vous le demande.
Je ne sais pas, je pose la question. et qu'une femme comme Annie Dupéret témoigne et dise oui, j'y ai touché, tout le monde y touche, etc. Est-ce que ça a un impact ou pas ?
Bah, déjà, moi, je préfère l'attitude d'Annie Dupéret que les filles qui sont comme ça. Non, je ne suis rien refait. Moi, je ne suis pas touchée à ma bouche. Il y en a quand même quelques-unes.
En général, elles font couper les cheveux en même temps. Et on dit, ah, mais t'as l'air beaucoup plus jeune avec tes cheveux courts.
Oui, c'est bien d'avoir l'œil de l'intérieur du milieu.
Moi, j'arrive pas à savoir si c'est un acte féministe ou pas de faire de la chirurgie esthétique.
Bah, finalement, si, parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais,
oui, non, mais j'arrive pas à juger si c'est.
Après, il y a une pression sociale, ouais, certainement, ce que disait Emmanuel tout à l'heure.
Mais non, c'est justement se laisser dominer par une pression sociale, des canaux esthétiques. Ou... Moi, en fait, je trouve que c'est. Évidemment, je réfléchis beaucoup à cette question. Et je trouve que c'est beaucoup plus difficile de ne pas accepter de vieillir, finalement, que d'accepter de vieillir. Les deux sont très durs.
Attention, il y a votre botox qui... Comme on est filmé, je voulais...
Bon, ah ben là, je pense qu'on a perdu Emmanuel Bergot. Donc on va statuer sur ce sujet en rappelant que, gardons l'alerte, hein, je vous rappelle que chirurgie esthétique, c'est prothèse mammaire, c'est prothèse PIP. Et là, il y avait un fameux scandale aussi.
Oui.
Et je vous ramène à La Fille de Brest, en DVD, sans bonus.
Bah, évidemment, prenez des bonnes prothèses plutôt. Évidemment, c'est ça le message.
L'actrice maintenant.
Attention, un rôle en fin d'émission, c'est chaque fois le principe. Je vous donne. Ah ouais, oui.
Évidemment.
Ouais. Je vous donne le rôle de Madame Kim Jong-un. Parce qu'en ce moment, Kim Jong-un rédige des lettres au président américain. Et donc, il bosse. Kim Jong-un, c'est Hippolyte Girardot. C'est mon petit rêve du jour. Et le chef des armées, c'est Guillaume Meurice. Attention, on se rend tout de suite au palais à Pyongyang.
Alors, vous êtes prêt ?
Oui, mon amour.
Oui, au grand soleil du 21e siècle.
Mais prêt à quoi ?
Bonne question. Prêt à écrire une lettre de menace aux Américains.
Oui ? Quelle bonne idée tu as, mon chouchou.
Oh, que j'aime ne pas être contredit.
Ben, rappelle-moi la dernière fois que tu as été contredit.
82.
Quand même, oui.
Ma nounouka avait refusé urine dans les bégonias.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai demandé qu'on l'enterre vivante et qu'au-dessus on plante des bégonias.
Et vous avez uriné sur les bégonias ?
Mais non, je ne suis pas cruel.
Pardon. Passe-moi.
Allez, commençons. Cher Monsieur Trump.
Alors, attendez, si je peux me permettre, je me disais, est-ce qu'on ferait pas ça un autre jour ?
Pourquoi ?
Non, parce que c'est comme on doit écrire votre prochain discours.
Chouchou, ils sont si beaux, tes discours ! Okay.
Mais il est dans 3 semaines, mon prochain discours.
Oui, oui, mais comme il dure 8 heures,
bah, on fera le même que la dernière fois.
Oui, c'est vrai que les gens aiment bien toujours vos discours.
Ah. Il était magnifique, ce discours. Oui. Je l'avais d'ailleurs déjà beaucoup aimé la fois encore avant.
Cher Donald, je vais t'attaquer aussi vite que possible.
Voilà, alors.
Moi, je trouve ça très clair.
Justement, si plutôt on attendait votre anniversaire, ce serait beau, ça a une attaque d'anniversaire.
Oui, voilà. C'est une excellente idée.
Voilà. Oui, mais il faut attendre janvier, c'est long janvier.
Tu n'as qu'à décider d'une nouvelle date d'anniversaire.
Ma chérie, excellente idée. Mon anniversaire tombera le jour du bombardement, donc le plus vite possible.
Et un anniversaire à chaque bombardement, c'est bon.
Oui, bah, à mon avis, si vous lancez le premier bombardement, il n'y aura pas de deuxième bombardement. Ah.
Attends, vous me contredites ?
Non. Depuis que ma mère est sous des bégonias,
il n'y a pas de deuxième bombardement. Je vous coupe la tête.
Trump demande de vous calmer sur Twitter.
Sur quoi ?
Ce truc que vous avez interdit.
Quand je pense que je prends la peine de lui écrire une belle lettre. Bon, je file, j'ai quoi faire.
Belle distrib.
Je suis content de ma distrib. Emmanuel Berco, Hippolyte Girardot et au milieu, Guillaume Meurice. Magnifique. Ah, vous étiez formidable. Merci Emmanuel Berco.
Merci à vous.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous qui nous a fait beaucoup de bien. C'était très chouette de vous recevoir. Je rappelle que La fille de Brest est en DVD, hein, l'adaptation du livre d'Irène Frachon, Mediator 150 mg. Si vous voulez le mettre dans votre vidéothèque et vous rappeler aussi de cette affaire de bonus. Il y aura bien tenu toute l'heure. Hein, Madame Bonus, on va vous appeler Emmanuel.
L'affaire des bonus.
Dès que vous revenez. Demain, on se retrouve avec Romain Goupil. Je laisse le mot de la fin. Tiens, le FN est à nos portes, donc on se réveille.
Et on se sent